France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Elle s'appelle Sophie Adonneau, elle est astronaute et elle a rejoint l'ISS, International Space Station, le 14 février de cette année, en 2026. Une première pour une Française depuis 25 ans. Elle va y rester 8 mois et pendant son séjour, elle envoie des petites vidéos depuis ses différents postes d'observation et livre ses réflexions, comme ici le 20 février.
Bonjour les Françaises, bonjour les Français. Un petit message pour vous dire que je pense bien à vous depuis là-haut. En fait, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis allée ouvrir les volets de la cupola toute seule. La cupola, c'est ce module où on a une vue absolument imprenable sur la Terre. C'est hyper émouvant. Voilà, je voulais vous envoyer cette petite vidéo parce que j'ai appris qu'en France, il y a quelques personnes qui galèrent à cause des inondations. Et je voulais vous dire que vraiment, je pense bien bien à vous, surtout ceux qui galèrent en ce moment.
Ce qui est marrant surtout dans les messages qu'elle poste, c'est de la voir dans sa capsule avec ses cheveux qui se dressent sur sa tête à cause de l'absence de gravité. Parfois aussi, Sophie Adonneau est émue et envoie des cœurs avec les mains.
Alors on est le dimanche 1er mars et je voulais prendre un petit peu de temps pour revenir sur les émotions que j'ai ressenties la première fois que j'ai vu la Terre de haut. En fait, la première émotion que j'ai ressentie, c'était une euphorie. Un petit peu comme si toutes les cellules de mon corps ressentaient une joie intense. J'aurais pu passer des heures, clairement, avec le sourire jusqu'aux oreilles à regarder ce spectacle magique. Et la petite anecdote assez amusante, c'est que la première fois que j'ai voulu prendre une photo de la Terre à travers ce hublot de la capsule Crew Dragon, c'est que j'ai vu des nuages en forme de cœur. Je vous assure, c'était incroyable. Je sais pas, j'ai pris ça un petit peu comme un signe que mon rôle auprès de vous, c'était de vous envoyer plein de choses positives. Voilà, un petit peu comme ce que j'ai ressenti en voyant les nuages en forme de cœur.
Comme on avait envie d'en savoir plus, on a bien essayé de demander une interview avec elle dans l'espace. Mais disons qu'elle avait des créneaux trop courts pour nous raconter en détail quel effet ça fait de tourner sur orbite à 28 000 km/h, de voir la Terre de loin, de vivre en apesanteur et tout ce qu'on rêverait de savoir sur la vie quotidienne des astronautes tout là-haut. Après tout, si on en croit certains, ça pourrait bien nous arriver un jour. Alors, on est retourné à la base et on est allé voir la grande dame, la toute première, la seule française avant Sophie Avenot à être allée dans l'espace. Elle s'appelle Claudie Aigneret et elle raconte à Valentin Rémy son voyage à bord de la station Mir il y a 30 ans de cela avec un max de détails.
Je suis Claudie Aigneret, une ancienne astronaute du CNES, l'Agence française de l'espace, et de l'Agence spatiale européenne. Je suis partie en 92 à la Cité des Étoiles, près de Moscou. Et à un moment donné, on se prépare spécifiquement à la mission qui va être la sienne. C'est-à-dire avec le programme expérimental, avec le type de réparation qui sont à mener. Et là, l'équipage est constitué. Un équipage de 3 personnes à bord du Soyouz. C'est un lanceur qui a 3 étages de propulsion. Un vieux lanceur qui avait déjà volé, je crois, plus de 1500 fois quand je suis monté. Et je suis préparé avec 2 collègues russes, Gennady Manakov et Pavel Vinogradov. Et moi, je suis la cosmonaute expérimentateur. C'est-à-dire, je suis responsable du programme scientifique. On part une quinzaine de jours avant le décollage à Baïkonour, où se trouve le pas de tir, au Kazakhstan, et dernier check médicaux. Et 10 jours avant le départ, un problème sur l'électrocardiogramme de mon commandant de bord, qui lui interdisait de prendre part au vol. Donc là, d'un seul coup, le doute. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, eh bien, ils vont changer tout l'équipage. Et je vais pas partir. Et en fait, la décision a été prise de changer le commandant et l'ingénieur et de me garder comme responsable du programme scientifique. Donc 10 jours avant le vol, hop, je change d'équipage et je pars avec Valérie Corzo et Sacha Caleri. Mais j'étais triste pour Gennady et Pavel, parce que c'était des merveilleux compagnons. Mais je savais qu'avec Valérie et Sacha, ça allait être fantastique, parce que c'était un super équipage, très sympathique, déjà formé, ayant volé. Ben, moi, j'étais la rookie, mais eux étaient déjà des vétérans du vol spatial. Donc là, on devient vraiment cet équipage, tout est concentré sur vous. Et ça s'accompagne de rituels qui sont très marqués. Bien sûr, planter un arbre dans l'allée des cosmonautes. Alors l'arbre de Gagarine, il est très grand. On visite le musée des cosmonautes, bien évidemment, où chacun laisse sa petite marque. On regarde tous, la veille du tir, le film qu'est censé avoir regardé Yuri Gagarine avant de partir. Bielison, c'est Vpustynie, le soleil blanc dans le désert. Quelqu'un qui va au bout de son aventure avec plein d'obstacles et plein de difficultés, mais qui arrive à réussir. Et alors là, on regarde le film jusqu'au bout. Faut surtout pas partir avant la fin, parce que ça porterait malheur. Voilà. Et le jour du départ, on se réunit tous dans une des chambres et on se met assis pendant une minute en respectant le silence. Tous, les instructeurs, des très proches de la famille qui sont là, pour observer cette minute de silence avant le voyage. Une fois qu'on a respecté cette minute de silence, on va signer sur la porte de la chambre avec un gros feutre noir. Et puis on va partir avec une aide d'honneur qui nous attend. Et c'est là où on dit au revoir à tous ceux qui sont là. Et on monte dans ce car nous emmène sur le pas de tir, sur le lieu où on va faire les derniers tests d'étanchéité de la combinaison, fermer le home, les gants, et puis dire un dernier au revoir derrière la vitre à ceux qui sont venus vous accompagner. Là, on salue le chef des forces armées en se disant qu'on est prêt. Quand on arrive au pied de la fusée, eh ben moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas très grande pour nous emmener aussi loin dans l'espace. Et là, peut-être déjà quelques minutes avant, on est déjà parti. On a déjà coupé avec la Terre. On fait ses saluts, on monte la petite échelle qui va nous emmener jusqu'au vaisseau Soyouz, la capsule, au sommet de la fusée. Mais quand vous regardez les yeux des équipages, on voit qu'ils sont déjà partis. Et voilà. On monte un petit escalier qui va nous emmener à un ascenseur. On rentre dans cet ascenseur, la porte se ferme, et là, ça nous élève jusqu'à la capsule. Une toute petite écoutille qui nous permet de passer au travers de la coiffe. On s'installe dans ce vaisseau. Trois sièges, les pupitres. Ça, on les connaît par cœur, parce qu'on les a vus des milliers d'heures à l'entraînement. Mais là, c'est notre vaisseau. Il est plein de choses. Il est plein de tous les pactages qui vont être nécessaires. Les parachutes sont installés. Et donc, on a l'impression que c'est trop étroit, qu'on va jamais réussir à s'installer, parce que c'est vraiment minimaliste comme positionnement. On se glisse les uns après les autres pour trouver sa place. Mon premier vol, j'étais en place droite, le commandant est en place centrale, l'ingénieur de bord en place gauche. Et là, il y a toute une phase de travail en commun avec le centre de contrôle de la mission pour vérifier chacun des paramètres, vérifier que tout est bien installé, qu'on a tout en tête, les éléments de décompte. Et ça dure plusieurs heures. Donc c'est pas des heures très confortables, hein. On est harnaché, mal installé dans ce siège, qui est pourtant moulé à notre forme. Et là, il y a des heures et des heures. Alors, on a, entre guillemets, commandé quelques morceaux de musique qu'on aimerait écouter avant de partir. Ah ben moi, c'était Elton John et Rocketman. Voilà. Et puis là, on va entrer dans la phase finale. Très sincèrement, personne ne m'aurait pris ma place ce jour-là. D'abord, il y a la mise à feu. Mais la fusée, elle est tellement lourde que ça décolle pas tout de suite. Puis d'un seul coup, ça commence à s'élever tout doucement. On part donc d'une gravité 1, 1G, et puis progressivement 2G, 3G, 4G. C'est 8 minutes 45 de vol propulsé, c'est très peu. Quand on arrive en orbite à 28 000 km/h, on se sépare de tout élément de propulsion. Là, c'est le silence. Alors nous, d'abord, on ressent rien, parce qu'on est harnaché sur nos sièges. Par contre, on a des petits indicateurs d'apesanteur, des petits objets. Moi, j'avais un petit ours. Et hop, ce petit indicateur se met à flotter. Notre crayon se met à flotter. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas rangé, ça se met à flotter. Voilà. On va avoir deux journées pour rejoindre la station spatiale et pratiquer l'amarrage. Dès qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de problème de dépressurisation, que tout s'était bien passé, le sol nous autorise à quitter notre scaphandre. Donc là, on sait qu'on est safe. Et on va aller regarder par le hublot. Et j'ai eu la chance, moi, ce premier regard par le hublot, de voir une aurore. J'en avais jamais vu au sol et c'est la première chose que j'ai vue par le hublot. Avant d'arriver à la station spatiale, on a un espèce de petit périscope qui nous permet de voir approcher notre vaisseau de la station. Et là, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Parce que cette station qui, à 2 km, n'était qu'un petit point, petit à petit, s'est mis à grossir. La station Mir en 96, c'était déjà une station multimodulaire avec plein de panneaux solaires qui reflétaient le rayonnement du soleil. Donc, vous arrivez dans un vaisseau sur un port spatial pour aller vous amarrer à un des nœuds d'amarrage. Ces deux objets qui sont à 28 000 km/h et on s'approche tout doucement à quelques centimètres par seconde. Voilà, le vaisseau bascule un petit peu dans son cône d'amarrage, puis petit à petit va venir se fixer de façon dure. Une fois qu'on a vérifié que la pression dans notre vaisseau, la pression dans la station spatiale sont équivalentes, le sol nous donne l'autorisation d'ouvrir l'écoutille et enfin d'entrer dans cette station spatiale dont on a tant rêvé. On ouvre l'écoutille, on pénètre les uns après les autres dans cette station. La première chose qu'on voit quand même, c'est l'équipage qui était là-haut, parce qu'on rejoint un équipage, il y avait trois personnes à bord, on est arrivé à trois. Donc c'est un grand moment de bonheur, de salutation, de joie. Voilà. Et puis ensuite, ben, on vous laisse découvrir cette station. Plusieurs centaines de mètres cubes. Ces modules, comment vous allez vous installer, y travailler? C'est vrai que dans les 24 premières heures, je dirais, c'est perturbant et un peu inconfortable. Se retrouver dans cette situation d'apesanteur, c'est un petit peu particulier à expliquer. Alors, pour vous déplacer, si vous êtes en plein milieu d'un grand module spatial et que vous êtes au milieu, vous pouvez toujours agiter les mains dans tous les sens et battre des pieds, vous n'allez pas avancer. Il faut qu'on apprenne à contrôler ses mouvements. Il faut aller propulsion en prenant un appui sur une paroi pour aller dans le tuyau qui va vous emmener au deuxième module, au troisième module ou aller de l'autre côté du laboratoire dans lequel vous êtes. Donc vous prenez vos repères. Alors déjà, une petite particularité des architectes, c'est qu'ils avaient essayé de mettre des couleurs différentes entre le plafond, le mur de droite, le mur de gauche et le plancher, pour qu'on arrive à se repérer. Mais dans une station, dans une configuration en trois dimensions, eh bien, quand vous arriviez dans un module, le plafond était effectivement haut, entre guillemets. Puis vous passiez dans un autre module et là, hop, il fallait faire un demi-tour sur vous-même parce que c'était le plancher. Donc voilà, ça vient pas tout de suite, hein. Ça m'a pris plus d'une journée, je pense, pour être sûr de l'endroit où j'allais. Voilà, on prend un petit peu ces marques doucement. dans la station Mir Ebeya, un lieu qui est le lieu, je dirais, un petit peu de convivialité, où il y a la table, où il y a l'appareil qui vous permet d'avoir de l'eau chaude, de l'eau froide. Voilà, c'est un lieu où on va partager. On est là quand même en équipage multiculturel, c'est un des bonheurs de la station en coopération. Sinon, on pourrait être tout le temps planté devant son rack expérimental ou devant un hublot tout seul, mais c'est pas que ça. La vie à bord, c'est aussi la vie en commun. Donc il y a ce lieu, pas très loin de ce lieu, il y a le lieu où il y a tous les pupitres de contrôle de l'ensemble des paramètres, où tous les matins et tous les soirs, l'équipage se réunit pour entrer en contact avec le sol, pour donner les paramètres, recevoir les ordres, voir les modifications du programme de travail. Donc ça, c'est la zone opérationnelle. Après, la zone d'hygiène, elle est très réduite, puisqu'il n'y a pas de douche à bord d'une station spatiale. Faire écouler de l'eau du haut vers le bas, ben ça le fait pas. Donc, on a des serviettes qu'on va humidifier, et en fait, on va se laver dans une bulle d'eau, puisque c'est les tensions de surface de votre corps qui vont faire que l'eau reste accrochée autour de vous. La même chose pour se laver les cheveux avec des shampoings sans rinçage. Ben, y a les toilettes, bien évidemment. Quand on fait pipi, il y a un système d'aspiration qui va reproduire en fait une gravité qui amènerait le liquide vers le sol. Et puis pour la grosse commission, c'est pareil, il y a un système d'aspiration, un sac et une façon de gérer les déchets. Et sur le plan de l'anecdote, c'est vrai qu'on dit souvent que le pipi du soir, c'est le café du matin. Dans le recyclage, il y a tout un système de purification de l'eau, de l'atmosphère qui est très très performant à bord. On est dans un endroit confiné, bien évidemment. Au-delà de la paroi métallique, après c'est le vide spatial. Mais à l'intérieur de la paroi métallique, on a reconstitué une atmosphère où on peut se déplacer en t-shirt à manches courtes, en bermuda. Alors on n'a pas de chaussures, mais il vaut mieux avoir quand même des bonnes chaussettes et une bonne protection. Parce qu'il faut se fixer avec les pieds partout. Quand vous faites une manip, si vous fixez pas votre stylo, votre calepin, vos pieds, que vous essayez de visser un boulon sans être accroché, c'est vous qui tournez autour du tournevis, c'est pas le tournevis qui va tourner dans le boulon. Dans l'espace, on va manger deux types de nourriture, une nourriture lyophilisée qu'on va réhydrater. Il y a des pailles pour ce qui est à boire. Bon, après, vous avez vu ces images à bord où on joue un petit peu avec les bulles d'eau. Mais ça fait partie du plaisir et des super pouvoirs qu'on peut avoir dans cet environnement. Ça, c'est la premier type de nourriture. Le deuxième type de nourriture, c'est une nourriture qui est préparée spécifiquement pour garder des qualités nutritives, que ce soit sur le plan quantitatif, en vitamines, en apports minéraux, ou que ce soit sur le plan qualitatif, gustatif. Cette nourriture, elle est préparée pour qu'il n'y ait pas de sauce qui s'échappe, pour qu'il n'y ait pas de miettes, parce que tout ça va voler. Au sol, avant de partir, on vous fait choisir une liste de plats, et vous dites « ça me plaît ». Et donc, on vous monte à bord un paquetage avec tous les éléments que vous avez sélectionnés. Et à bord, vous trouvez que ça n'a pas le même goût que ce que vous aviez goûté au sol. Donc j'avais des crèmes caramel, parce que je suis très sucrée, donc il y avait des petits desserts, puis plein de bonnes choses, avec plutôt tendance sud-ouest, voilà, des cailles, des choses un peu en sauce. Non, c'était super à partager avec les collègues à bord. On peut avoir une liaison privée avec son médecin au sol, en confidentiel, pour pouvoir poser des questions, soit de santé physique ou éventuellement d'humeur perturbée sur un vol de longue durée, ça peut arriver. Voilà, on n'est pas toujours au top de la couleur rose dans la sensibilité. Parfois, certains avaient des douleurs dorsales. À dormir dans ce sac de couchage où vous n'avez plus le contact avec le sol, certains se plaignaient de mal de dos. En plus, quand vous n'avez pas la gravité pour réduire votre espace entre les vertèbres, on dit toujours que les cosmonautes grandissent. En fait, ils se déplient. Et ça peut provoquer aussi des petites douleurs. Mais ensuite, le fait d'avoir ce corps relaxé avec des muscles qui ne sont pas contractés, vous allez perdre du muscle. Donc, il faut renforcer le muscle Et ça, c'est 2 heures par jour d'exercice physique, avec à bord un tapis roulant, un vélo ergomètre, et puis un système de musculation de la partie supérieure du corps. Voilà, ça c'est le point à ne pas oublier. Et il y a encore un dernier point. La station spatiale, elle fait un tour de Terre en 90 minutes. Donc 16 fois par jour, vous faites le tour de la Terre. Et bien évidemment, on ne travaille pas sur des rythmes de travail de 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Ça ne se fait pas. Donc on travaille en coordination avec le sol. On va avoir un premier point de contact vers 6h30, 7h, je me rappelle plus exactement. Après ça, bah vous allez hop attraper votre café ou votre thé, le remplir d'eau chaude et puis peut-être retourner dans votre petit coin pour vous laver le bout du nez, non, pour démarrer la journée. Et puis vous allez vous mettre à la première manip qui est sur votre programme expérimental. Et en général, vous avez 3 à 4 heures de manip le matin, un petit peu de temps libre ensuite pour attraper un coin de déjeuner. Et en général, là, on le prend pas tous ensemble parce que on est chacun occupé à des tâches particulières dans tel ou tel module. Alors, si vous regardez les images d'une station spatiale aujourd'hui, vous voyez que chacune des parois, elle est pas lisse. Derrière, ça cache toute l'instrumentation. C'est une paroi dans laquelle vous voyez des poignées, des tiroirs et des écrans. C'est ce qu'on appelle des racks. Alors il y a des drawers, des tiroirs ou des racks complets. Dans le domaine des sciences du vivant, la physiologie, la biologie des cellules, la biologie animale, la biologie végétale avec la fameuse serre où on apprend à faire pousser pas des salades, des fleurs. Et qui est un endroit assez privilégié dans la station, parce qu'il y a des lumières un peu particulières pour favoriser cette agriculture du futur, on peut dire. L'après-midi, ça recommence avec 5 à 6 heures de travail, entrecoupé de ces 2 heures d'exercice physique, un point débrief avec le sol, tous ensemble, puis le temps du dîner partagé. On essaie le soir de se retrouver quand même un petit peu sur ce moment de convivialité. Et puis ensuite, chacun va rentrer un petit peu dans ses quartiers. Et l'extinction des feux, en général, je sais pas, c'est 23 heures. Il faut quand même essayer de dormir, bien évidemment, parce que il faut tenir compte de la fatigue, du niveau de vigilance. Parce qu'il peut toujours y avoir une urgence à bord et que le programme du lendemain sera aussi chargé que le programme de la veille. Mais c'est vrai que c'est souvent sur ce temps-là qu'on prend du temps pour tout ce dont on va se nourrir. Des loisirs et du temps personnel sur une mission de longue durée, c'est essentiel. Et ce sont à la fois des moments individuels et puis des moments conviviaux où on va regarder le tournoi Destination, les Jeux Olympiques de Milan ou un film en commun. Vous écoutez de la musique, bien évidemment, vous avez votre playlist avec vous, à l'époque c'était des cassettes. Ces moments de bonheur pour moi, il y en a eu beaucoup, mais celui d'une contemplation par le hublot pendant une orbite ou une demi-orbite avec la Callas Norma, Casta Diva, dans les oreilles, avec ce corps qui pèse plus rien, ce regard qui n'est qu'un regard, qui laisse passer la Terre, laisse défiler avec cette musique qui vous accompagne et qui vous met dans un état de contemplation transcendantale qui était des moments magiques. Je me suis nourrie de ça. Peut-être le seul petit regret que je peux avoir, c'est que j'ai pas eu le temps d'apprendre la Terre par cœur. Parce que mes collègues qui ont fait des vols de longue durée, qu'ils voient n'importe quelle photo prise depuis l'espace. Et ça, vous savez, à force d'avoir fait 16 fois par jour le tour de la Terre. Et j'ai toujours des photos de la Terre depuis le hublot de la station pour convaincre les platistes que je peux rencontrer dans certaines conférences que la Terre est bien sphérique. On voit cette Terre magnifique dans ses couleurs, dans ses champs, dans ses lacs, dans ses glaciers, dans ses sommets. Cette agriculture qui n'est pas du tout la même en Europe que celle qu'on peut voir aux États-Unis, avec le soleil qui éclaire plus ou moins, le passage au Terminator quand on va passer dans l'obscurité de la Terre. On voit que elle est entourée par une très très mince pellicule d'atmosphère. Au-delà, après, c'est le cosmos noir. On voit aussi ces catastrophes naturelles qui nous menacent, où on voit se développer les cyclones, où on voit les éruptions volcaniques, où on voit les tempêtes de sable qui traversent l'Atlantique, les méga-feux. Aujourd'hui, on voit des méga-feux depuis l'espace. Je pense que ça a transformé mon regard avec une prise de conscience plus liée à des vraies perceptions. C'était pas simplement quelque chose d'intellectuel, comme on peut dire, changement climatique, parce qu'on est en train de perturber les grands équilibres de l'atmosphère, de la lithosphère, de la cryosphère. Ça, on l'apprend sur les livres, on voit des reportages. On le voit avec les yeux des satellites. Mais là, on le voit avec nos yeux. Donc, c'est une prise de conscience qui vient du fond de soi-même, du fond de ses tripes. Et que chaque astronaute ramène au retour. Et puis, à un moment donné, bah, voilà, faut penser au retour. Alors, la première chose pour penser au retour, c'est de ramener tous ces échantillons dont on n'a pas pu faire le traitement à bord. On ramène des images, bien évidemment. On prend un dernier repas, on a les dernières consignes du sol. Et ben, on dit au revoir et des embrassades. Des petits mots qu'on va emmener avec nous pour transmettre à ceux qui sont au sol, aux familles, aux épouses, aux enfants. On ferme les coutilles et puis on va enclencher le désamarrage. Et bah, petit à petit, on va commencer cette rentrée dans l'atmosphère. Et par le hublot, bah, on voit que ça chauffe très fort à l'extérieur, 1500 degrés. On voit que les hublots deviennent rose clair, rose foncé, rouge clair, rouge foncé, orange, marron, puis noir, que tout est en train de brûler à l'extérieur. Et quand on aura suffisamment freiné et contrôlé la trajectoire, on va commencer à ouvrir ses parachutes. À moins d'un mètre du sol, il y a des rétrofusées qui permettent d'amortir l'impact au sol. Et on se pose. On est quand même un petit peu secoué par cet impact. Donc là, il y a toutes les équipes de secours qui vont ouvrir l'écoutille. Et c'est vrai qu'à l'ouverture de l'écoutille, moi, la chose qui m'a sauté au nez, à la tête et au cœur, c'était l'odeur de la Terre. Voilà. On était redevenus des terriens. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. C'était Profession Astronaute, un reportage de Valentin Rémy réalisé par Perret Legras et mixé par Grégory Wallon. Merci bien sûr à Claudie Aigneret, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est aussi Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet. On such a timeless flight. Gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be a long. Brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be be a long time, and I think it's gonna be a long time.